L'heure des informations avec vous, Stanislas.
Bonsoir à tous. Les Bleus de retour en France, les vainqueurs du mondial de football devraient défiler sur les Champs-Élysées dans quelques instants. Les hommes de Deschamps qui ont suscité une immense ferveur dans tout le pays, ferveur inédite depuis 2015, l'analyse de Stéphane Robert dans ce journal. Nous reviendrons aussi sur les incidents qui ont quelque peu gâché la fête hier soir, près de 300 gardes à vue et une quarantaine de policiers et gendarmes blessés. Nous ferons le point avec Antoine Maretz. La main sur le cœur, Vladimir Poutine affirme que la Russie ne s'est jamais ingérée dans les élections américaines. Le président russe a rencontré tout à l'heure Donald Trump à Helsinki, où nous retrouverons notre envoyé spécial Quentin Dickinson. L'islamiste Jamel Begal est sorti de sa prison française ce matin. Le mentor des djihadistes de 2015 a été aussitôt expulsé vers l'Algérie. Les explications de Florence Turm. La fête continue après la campagne victorieuse des Bleus en Russie. Plusieurs dizaines de milliers de personnes attendent sur les Champs-Élysées le retour de leur héros. L'avion de l'équipe de France a pris du retard au départ de Moscou. Il est arrivé peu avant 17h à Roissy et le défilé sur les champs n'a toujours pas commencé. En attendant, les supporters savourent leur bonheur de retrouver une France unie dans la joie derrière ses joueurs. À l'image de Mathieu, ce jeune pâtissier de 20 ans originaire d'Angers.
Ce qui est génial, c'est que ces dernières années, on avait souvent pris l'habitude de se réunir pour des événements qui n'étaient pas forcément joyeux. Et là, se retrouver avec des millions de Français dans les rues, que ce soit en France ou même à l'étranger. On voyait ce matin, vite fait sur nos téléphones, à Dubaï, partout. Pouvoir aborder fièrement notre drapeau tricolore avec le sourire, c'est la plus grande récompense pour nous supporters et pour les joueurs. Quand ils vont arriver tout à l'heure, quand ils vont prendre le rond-point de l'étoile, là, et qui vont voir tout ce monde-là juste pour eux et avec le sourire, bah, je pense que c'est la meilleure des récompenses.
On est les champions !
Stéphane Robert, bonsoir.
Oui, bonsoir, Stanislas.
Alors effectivement, la dernière fois que les Français s'étaient rassemblés par millions dans les rues, c'était en janvier 2015, après les attentats contre Charlie et l'hypercacher.
Oui, déjà les manifestations populaires d'ampleur comme celle-ci, avec des dizaines voire des centaines de milliers de personnes, ne sont pas si courantes. Et ces dernières années, elles ont été soit le fruit d'une mobilisation politique d'une partie de la population, contre un projet de loi, par exemple en 2006, contre le contrat première embauche porté par le gouvernement Villepin, ou plus récemment contre le mariage gay avec la Manif pour tous, soit elles ont été la manifestation d'un besoin d'unité nationale, mais dans la douleur, avec notamment, vous l'avez dit, ces immenses rassemblements au lendemain des attentats contre Charlie Hebdo il y a 3 ans et demi. Et on s'aperçoit donc que parmi toutes ces manières d'exprimer un sentiment d'appartenance à une communauté nationale, à une idée collective d'organisation de la société, celles qui n'expriment pas de douleur ou pas de division et qui relèvent d'une communion dans la joie sont extrêmement rares. Dans ces conditions, il n'est pas surprenant que le président de la République essaie d'être associé au maximum à ce phénomène politique de rassemblement, d'unité de la nation. Et il en fait beaucoup, Emmanuel Macron, du côté de la majorité de La République En Marche. On reconnaît même qu'il en fait peut-être un peu trop avec ses manifestations de joie, ses poings serrés, ses paroles dans les vestiaires avec les joueurs. Et puis, cette réception ce soir de grande envergure, 3000 personnes invitées à l'Élysée. En même temps, il ne simule pas, c'est un vrai supporter, explique un député La République En Marche, pas comme Jacques Chirac en 98 qui n'y connaissait rien au football. Pour Emmanuel Macron, il s'agit quand même de ne pas altérer ses accents de sincérité, de trouver la juste mesure pour ne pas donner corps aux critiques. Pour l'instant, elles ne sont pas si nombreuses sur une instrumentalisation politique de l'événement.
Stéphane Robert du service politique de France Culture, merci. Effectivement, les Bleus vont descendre les champs juchés sur la plateforme d'un autobus à Impérial, parade sous haute surveillance. Pour éviter les débordements de la veille, nous y revenons dans un instant. Ensuite, l'équipe de France se rendra à l'Élysée pour retrouver Emmanuel Macron, le président qui remettra à chacun des joueurs la Légion d'honneur pour service exceptionnel rendu à la nation selon l'expression consacrée. Nous retrouvons à l'Élysée Laura Dulieu. Bonsoir.
Oui. Bonsoir.
Laura, Emmanuel Macron a invité plusieurs centaines de jeunes issus des clubs formateurs des stars de l'équipe de France.
Oui, ils sont plus de 1000 jeunes à avoir foulé le perron de l'Élysée depuis tout à l'heure. Des drapeaux français s'agitent, certains jeunes portent fièrement le maillot des Bleus sur les épaules et d'autres celui de leur propre club. Des clubs, comme vous le disiez, dont certains ont vu naître les héros d'aujourd'hui. C'est le cas notamment du club de Bondy où a démarré Kylian Mbappé ou encore celui de Roissy-en-Brie, premier club de Paul Pogba. Pour tout le monde ici, l'excitation est immense. On se bouscule pour se prendre en photo sur le tapis rouge déroulé pour l'occasion. La cour de l'Élysée s'est très vite est rempli. Certains lancent « Vive la France, vive la République », d'autres dansent et entonnent la Marseillaise. Et il faut savoir que la plupart des clubs ont appris leur invitation la veille ou le jour même pour certains. Un éducateur me racontait qu'il avait appris son invitation 2 heures avant, juste le temps de prendre le plus d'enfants possible et d'arriver tout sourire au palais de l'Élysée, où leurs héros, les 23 joueurs de l'équipe de France, seront bientôt accueillis par le président Macron. En tout cas, le moins que l'on puisse dire, c'est que parmi les jeunes footballeurs en herbe ici, on trépigne d'impatience en attendant les champions du monde. Vous l'avez dit, leur programme a pris du retard. Il devrait arriver d'ici 2 heures maintenant.
Laura Dulieu en direct de l'Élysée, merci. Malheureusement, la belle fête populaire a été quelque peu ternie par de nombreux incidents hier soir dans toute la France. Selon un bilan fourni par le ministère de l'Intérieur, 292 personnes ont été placées en garde à vue, dont 90 rien qu'à Paris. Antoine Marette, bonsoir.
Bonsoir.
Les incidents les plus sérieux ont éclaté en fin de soirée dans le quartier des Champs-Élysées.
Et notamment au drugstore Publicis, en tout ce sont une douzaine d'enseignes qui ont été dégradés par des groupes de casseurs. Face à ces débordements, les autorités ont fait usage à plusieurs reprises de lanceurs d'eau. Plus tard dans ce quartier, une rixe a opposé 2 groupes. Une personne a été sérieusement blessée. Elle a été prise en charge par les secours en urgence absolue. Selon un photographe de l'AFP, il s'agissait d'un membre de ces groupes. Il aurait pris un violent coup de casque sur la tête avant de s'effondrer. L'autre ville qui a connu des incidents notables, c'est Lyon. Plusieurs enseignes ont été également saccagées et 30 personnes ont été interpellées. Quelques incidents également à signaler à Marseille. En tout, sur l'ensemble du territoire, 45 policiers et gendarmes ont été blessés, mais aucun grièvement. Ce bilan est à mettre en perspective avec la masse de personnes venues fêter la victoire française dans un contexte de risque terroriste. Plusieurs centaines de milliers de personnes se sont ainsi rassemblées sur les Champs-Élysées. Il y a 20 ans, le soir de la victoire lors de la Coupe du Monde 98, le bilan avait été beaucoup plus lourd. 2 voitures folles avaient fauché des badauds, faisant 1 mort. Et 147 blessés, dont 36 graves.
Antoine Marette, merci. Revenons à présent sur l'une des images spectaculaires de la finale France-Croatie. Non pas un but, mais l'irruption sur la pelouse de 3 personnes. L'une d'elles a même réussi à taper dans les mains de la star française Kylian Mbappé. Derrière ce coup d'éclat, il y avait les Pussy Riot, ce groupe punk farouchement hostile à Vladimir Poutine. Le récit d'Élise Delève.
25 petites secondes de gloire. Pendant 25 secondes, 3 personnes déguisées en policiers ont parcouru une 50aine de mètres sur le terrain avant d'être arrêtées. Un autre homme a été bloqué sur la touche. Quelques minutes plus tard, le groupe contestataire Pussy Riot publie une vidéo pour expliquer son geste.
Chers amis, vous le savez peut-être, mais la loi n'a pas de règles en Russie. Les policiers peuvent débarquer dans votre vie sans raison.
La Coupe du Monde a montré que les policiers russes pouvaient bien se comporter. Mais est-ce que cela va durer une fois la compétition finie ?
Assis sur un canapé, habillé en policière comme les 4 personnes qui ont envahi le terrain hier soir, des femmes alertent le monde sur les atteintes aux droits de l'homme en Russie. Les Pussy Riot réclament notamment la libération du cinéaste ukrainien Oleg Sentsov. Il a été condamné à 20 ans de camp pour avoir incendié 2 bureaux en Crimée après l'annexion russe. La police de Moscou annonce avoir interpellé 3 femmes et 1 homme. Ils ont été conduits à un poste de police hier soir. Dans une autre vidéo postée sur Twitter, on voit le début de l'interrogatoire et on entend un policier lancé. Dommage qu'on ne soit pas en 1937, année des purges généralisées de Staline, où les gens qui ne respectaient pas l'ordre étaient fusillés.
Élise Delève, merci. La semaine dernière, Donald Trump avait donné une définition toute personnelle de la nouvelle diplomatie américaine. Le locataire de la Maison Blanche avait qualifié d'ennemis la Russie, la Chine et l'Union européenne. Et justement, les Européens et les Chinois sont réunis aujourd'hui à Pékin pour leur sommet annuel sur le commerce. Les deux parties tenteront d'adopter, autant que faire se peut, une position commune face à Washington. Bonsoir Marie Viennot.
Bonsoir.
Entre l'Amérique de Trump et la Chine du communiste Xi Jinping, l'Union européenne cherche une voie médiane.
Oui, à l'occasion de ce sommet, le pouvoir chinois aurait souhaité la publication d'une déclaration commune contre la politique commerciale de Donald Trump. Mais l'Union européenne n'y est pas prête et on la comprend car elle partage l'essentiel des critiques américaines sur la Chine dans le commerce mondial. Aujourd'hui, le président du Conseil européen Donald Tusk a de nouveau plaidé depuis Pékin pour de nouvelles règles dans dans les domaines des subventions industrielles, de la propriété intellectuelle et des transferts forcés de technologies, ce qui vise directement le modèle économique chinois tant décrié par Donald Trump. Début juin, l'Union européenne a d'ailleurs porté plainte contre la Chine devant l'OMC pour les transferts de technologies, un vieux dossier qui va enfin pouvoir être instruit, mais le même jour, elle avait aussi déposé sa plainte contre les nouveaux tarifs américains sur l'acier, façon pour l'Union européenne de dire clairement « je ne choisis aucun camp ». Alors au mieux, le sommet de deux jours qui démarre aujourd'hui à Pékin pourrait se conclure par une déclaration d'intention en faveur du libre-échange, possible aussi que rien n'en sorte, comme ce fut le cas lors des deux dernières éditions de ce sommet, en raison des désaccords sur la mer de Chine. La Chine revendique sa souveraineté sur la quasi-totalité de cette région, car c'est entre autres un axe stratégique du commerce mondial. Mais l'Union européenne et les États-Unis s'en inquiètent de plus en plus. Or, c'est là aussi un sujet qui met plutôt l'Union européenne dans le camp des États-Unis face à la Chine, d'où l'irritation légitime des instances européennes quand le président américain a rangé, comme vous le rappeliez, l'Union européenne dans le camp de ses ennemis commerciaux avec la Chine.
Marie Viennot, merci. Avant d'évoquer le sommet Trump-Poutine à Helsinki, retour en France avec la libération de l'islamiste Jamel Begal, celui que l'on présente comme le mentor de l'un des frères Kouachi et d'Amédi Koulibaly, est sorti de prison ce matin. Florence Thion, bonsoir.
Bonsoir.
Jamel Begal qui a aussitôt été expulsé vers l'Algérie, son pays d'origine.
Oui, Jamel Begal a quitté la prison de Rennes-Vezin-le-Coquet à l'aube. Des hommes de la PAF, la police de l'air et des frontières, l'attendaient pour le conduire à l'aéroport de Roissy, d'où il a décollé pour Alger dans la matinée. Déchu de sa nationalité française après une première condamnation à 10 ans de prison pour un projet d'attentat contre l'ambassade américaine à Paris, Jamel Begal avait lui-même demandé à rentrer dans son pays d'origine qu'il avait quitté dans les années 80 pour s'installer en France. Mais son passeport était périmé. Les autorités algériennes ont donc fini par accepter son retour après plusieurs semaines de tractations diplomatiques avec Paris. Paris qui ne souhaitait pas le voir rester sur le sol français une fois purgé sa peine pour le projet d'évasion de Smaïn Ali Aït Belkacem, membre du GIA algérien et condamné pour l'attentat du RER Saint-Michel en 95. Cela aurait engendré une situation complexe, avec dans un premier temps passage dans un centre de rétention administrative, puis une assignation à résidence qui aurait pu durer des années. L'expulsion de Jamel Begal s'est heurtée à des oppositions jusqu'au dernier moment. Un avocat de partie civile dans le dossier de l'hypercacher a tenté de s'y opposer en déposant un référé suspension et une demande d'acte auprès des juges d'instruction chargés de l'affaire, mais en vain. Jamel Begal a bien été entendu par les magistrats à deux reprises en raison de ses liens avérés avec Chérif Kouachi et Amédi Koulibaly, auteur des attentats contre Charlie Hebdo et l'hypercacher, mais aucune charge n'a été retenue contre lui dans ce dossier. Pas plus, précise son avocat Béranger Tourné, qu'il n'a jamais fait l'objet d'une quelconque condamnation en Algérie.
Florence Thion, merci. Revenons à présent sur le sommet Trump-Poutine à Helsinki. Vladimir Poutine qui savoure son succès. Le mondial en Russie a été une réussite en termes d'organisation. Et c'est donc un président russe renforcé dans son pouvoir qui a rencontré aujourd'hui Donald Trump à Helsinki. On retrouve sur place notre envoyé spécial Quentin Dickinson. Bonsoir. Quentin Dickinson, est-ce que vous êtes en direct avec nous ? Ah, je crois que nous n'avons pas Quentin Dickinson. Je pense que nous le retrouverons dans nos prochaines éditions. On retiendra de ce sommet Trump-Poutine cette déclaration du président russe. La Russie ne s'est jamais ingérée dans les élections américaines. Voilà ce qu'a martelé le maître du Kremlin devant le président américain. On me dit que Quentin Dickinson est là pour nous faire le point sur le sommet Trump-Poutine.
Bah oui,
Quentin, nous vous écoutons. Quel bilan faut-il faire de ce sommet Trump-Poutine ?
Eh bien, la réunion s'est considérablement prolongée par rapport à ce qui était prévu. La conférence de presse finale vient à l'instant de se terminer. Le premier à s'exprimer aura été Vladimir Poutine, qui a livré un compte-rendu long, précis et technique de leurs entretiens. Il a dit reconnaître que les rapports russo-américains étaient difficiles en ce moment, mais que la guerre froide était bel et bien du passé. Et de dresser la liste des dossiers, la sécurité mondiale, les crises régionales, le terrorisme, les risques environnementaux, autant de têtes de chapitre où, selon lui, la coopération entre les deux puissances pouvait trouver à s'exercer utilement. Curieux sérieusement, et cela sera assurément noté par les milieux diplomatiques, M. Poutine a remercié Donald Trump d'avoir, sur l'annexion de la Crimée, privilégié le dialogue plutôt, a-t-il dit, que la confrontation. En conclusion, la Russie estime être satisfaite de cette première rencontre approfondie avec l'interlocuteur américain. Celui-ci, en revanche, paraissait beaucoup moins à l'aise aujourd'hui dans cet exercice que lorsqu'il s'est agi il y a peu d'admonester ses alliés européens et canadiens. Son propos est resté dans les généralités et son intervention avait visiblement été préparée en termes diplomatiques classiques par ses conseillers. C'est au moment des questions que tout s'est soudain animé, d'abord sur l'approvisionnement en gaz et en pétrole de l'Union européenne, et ensuite et surtout sur les aspects de politique intérieure américaine. En des termes plutôt durs, Donald Trump a tenté de disperser les soupçons d'ingérence russe dans le processus électoral qui l'a conduit à la victoire, ou plus exactement, de reconnaître les ingérences, mais de réfuter qu'elles auraient eu la moindre influence sur son élection, remportée selon lui à la régulière, et tout le reste, a-t-il martelé, n'est que fake news.
Quentin Dickinson en direct d'Helsinki, merci. Un mot du temps demain qui sera moins orageux qu'aujourd'hui. Les averses se limiteront au sud-ouest, au Grand Est et au relief. Partout ailleurs, le soleil devrait s'imposer. Température minimale de 11 à 21 degrés du nord au sud. Les maximales iront de 21 à 34 degrés. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Jean-François Braun.